Alors, vous avez reçu, comme la plupart d'entre vous, le bulletin d'info, et j'ai donné ce titre, mais j'ai franchement hésité avant d'utiliser un gros mot qui n'est même pas dans le dictionnaire. Je me la suis jouée à la John Glass. Alors, je n'ai pas inventé un mot comme John. Il existe, mais il n'est pas dans le dictionnaire. C'est le mot, pas puissant, ni impact, ni jeune église, mais bien missionnel. En fait, j'avais intitulé au départ L'impact puissant d'une jeune église locale. Puis après, j'ai dit non, d'une jeune église christocentrique. Puis j'ai dit ah non, d'une église centrée sur la parole. Et puis j'ai dit mais en fait, c'est tout ça. Il fallait que je trouve un terme générique. Et donc, c'est le mot missionnel qui est sorti. Alors, vous ne trouverez pas ce mot dans le dictionnaire parce que le mot missionnel n'existe pas. C'est un terme utilisé par les missiologues. Et comme j'ai fait une formation en missiologie, ben c'est un terme qu'on utilisait couramment, mais ce n'est pas dans le dictionnaire. Qui sait la définition du mot missionnel? Il y a un mot qui a dedans, on se doute de ce que ça dit. Missionnaire. Alors, ce n'est pas une église missionnaire. Il y a de ça, mais ce n'est pas exactement ça. Le terme missionnaire désigne une activité spécifique. En fait, ça concerne le faire. Quand on est une église missionnaire, c'est qu'on est engagé dans la mission. Vous voyez? Donc, on fait des actions. Alors que le terme missionnel se réfère à l'être ou à l'identité d'une personne ou d'une église. Autrement dit, vous pouvez être missionnel et l'église dans le corps, l'ensemble des membres peut être missionnel. En fait, une église missionnelle, c'est une communauté où les activités sont intentionnellement orientées vers l'extérieur en vue de toucher les non-chrétiens, tout en soutenant les croyants dans leur ministère quotidien. Et c'est ce qu'on va voir ce matin dans notre texte du jour qui fait suite à une rencontre non planifiée de Paul avec 12 disciples de Jean-Baptiste, des croyants de l'Ancien Testament. Alors qu'il se rendait dans la ville d'Éphèse, il va rencontrer ces gens, il va se passer l'épisode de la semaine dernière et il va poursuivre sa route. Et qu'est-ce qu'il fait quand il arrive à la ville d'Éphèse? Je vous le donne en mille. Il va. Vous connaissez la rhétorique de Paul, et donc c'est ce qu'on va lire ici. Pas la rhétorique, mais la stratégie de Paul. On voit ce refrain tout le temps. On ne se lasse pas, parce qu'à chaque fois, il se passe quelque chose de nouveau, et là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Et quand j'ai intitulé cette série Mieux qu'une série Netflix, là, on est dans l'extraordinaire. C'est mieux que Superman, honnêtement. C'est mieux que les séries Flash et compagnie, parce que là, c'est du réel. Et vous allez voir ce qui se passe. Paul entra dans la synagogue où il parla ouvertement pendant 3 mois. Il s'entretenait avec eux et les persuadait en ce qui concerne le royaume de Dieu. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, et décriait devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, prit les disciples à part et eut des entretiens chaque jour dans l'école de Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui avaient touché son corps. Alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. Waouh! Je suis pas en train de lire une bande dessinée là. Je lis la parole de Dieu. Ce sont des faits ici. Luc est un médecin, celui qui raconte le livre des Actes. C'est un médecin. Il raconte des détails. Et là, on a plusieurs détails historiques qui nous montrent que notre vie, mes amis, que notre engagement peut avoir un impact beaucoup plus grand que notre église locale. Bon, vous savez que tous nos enseignements sont publiés ici sur le web depuis des années. et John a fourni une grande partie de la base de données. Aujourd'hui, on a à peu près 10 000 abonnés sur notre chaîne YouTube. C'est énorme pour une toute petite église comme la nôtre. C'est énorme. Donc on a un impact qui dépasse largement le cadre de Genève et de nos murs, d'accord ? Ça, c'est la technologie, mais finalement, on n'y est pas pour grand-chose. Alors oui, on publie, mais franchement, ça ne nous appartient pas. C'est de la semence qu'on envoie sur le web. Mais votre vie, ma vie, en la vivant tout simplement normalement, en s'investissant, normalement dans notre église locale, dans notre contexte familial, dans notre contexte professionnel, dans notre contexte social, eh bien, peut avoir un impact beaucoup plus grand que ce qu'on peut imaginer. Et c'est mon rêve. Et j'aimerais que vous rêviez ce matin en disant « Waouh, notre église peut être comme l'église d'Éphèse ». Et je vous le dis là encore une fois, j'ai plein de rêves en ce moment. C'est mon rêve que l'EIG devienne comme l'église d'Éphèse. Et on va rentrer dans le détail maintenant du texte. Première des choses pour devenir comme l'église d'Éphèse, c'est qu'il faut se préparer à parler. Hein ? C'est ce qu'on voit ici au niveau de l'apôtre Paul. Et regardez bien les différentes manières d'aborder les gens. Paul entra dans la synagogue où il parla ouvertement pendant 3 mois. Il s'entretenait avec eux et les persuadait en ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors Paul poursuit sa stratégie, ça c'est sans surprise. Il va, comme je le dis régulièrement, vers le public le mieux préparé, le plus susceptible d'accueillir l'évangile. Paul est juif, il n'a donc aucun effort culturel à fournir pour parler aux juifs. Il entre dans la synagogue et comme c'est un rabbin érudit d'origine benjaminite, il est pharisien, il est docteur de la loi, et donc quand on a un homme de ce calibre qui débarque dans une église, on lui donne le micro. Et c'est ce qui se passe. Quand il arrivait dans les églises, quand on voyait le calibre du bonhomme, on se disait « Waouh, il en connaît tellement plus que moi ». Et donc c'est ce qu'il fait. Paul, il a son statut qui est là, et donc il en profite. Et il va rester pendant 3 mois au milieu de ces juifs. Et probablement que quand il était dans la synagogue, c'était pour le jour du Shabbat, mais il s'entretenait aussi à côté du Shabbat, donc à côté des synagogues. En tout cas, pendant ces 3 mois, il va avoir le temps de varier ses approches en matière de communication. Et je ne sais pas si vous avez vu, j'ai surligné de différentes couleurs ici pour montrer en fait que Paul, il va adapter au fur et à mesure et en fonction des personnes, du public, il adapte son discours. Au départ, il parle ouvertement. Là, alors vous allez trouver selon les versions, là c'est la colombe, mais si vous allez, déjà dans le grec, c'est un seul mot. Nous c'est traduit parler ouvertement, mais c'est le mot parésiazomai. Et donc, un seul mot traduit dans la seconde 21 NBS par « parler avec assurance » où il prit la parole avec une grande assurance dans la Summer. Il parla librement, si vous avez la nouvelle édition de Genève, ou il parla avec hardiesse, si vous avez une version Darby ou encore plus ancienne, Martin. En fait, ça donne l'idée que Paul prêchait avec audace. Ça ne veut pas dire d'une manière agressive, hein, quand on prêche avec audace, mais ça veut dire qu'on a une certaine assise théologique, une forme d'autorité. Et donc Paul, il utilise en fait son statut pour enseigner de cette manière-là. Mais il ne fait pas que ça. Vous avez vu le terme qui vient plus tard. Pendant 3 mois, il s'entretenait avec eux. En fait, c'est une autre forme de communication que je qualifierais de communication chaude. Hein, quand je prêche, là, on n'est pas en discussion. Je vous vois, vous me voyez, j'essaye de créer du contact avec le public, je vous envoie des petites blagues de temps en temps où il faut rire, c'est le but. Hein. Mais je prends, mais c'est quand même assez froid. Vous voyez, on n'est pas dans une discussion, vous ne me partagez pas vos émotions. Moi, je vous partage les miennes, mais c'est un peu unilatéral. Là, c'est un monologue. Alors que là, on voit qu'il y a un dialogue qui s'installe. Il s'entretient. Et quand on s'entretient, on est dans la discussion interactive. Un peu ce que l'on fait dans nos études bibliques, ou quand on a fait une étude biblique avec des gens qui ne connaissent pas l'Évangile, on ne vient pas leur donner un cours. on vient essayer de répondre à leurs questions. Et donc, on est dans le dialogue, dans la discussion. Et si vous regardez un petit peu juste après, donc il s'entretient avec eux et les persuadait. Il y avait quand même un but, hein, c'est qu'on ne va pas discuter pour discuter. L'objectif, c'est qu'il les persuade. Il les persuade. Et là, il y avait un objectif, c'était les persuader en ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors honnêtement, j'essaye de faire une petite application ici pour nous. Je ne sais pas si c'est le genre de discussion que nous allons avoir avec les gens qui nous entourent. Est-ce que les gens attendent le royaume de Dieu aujourd'hui ? J'en connais peu en fait, hein, même pas du tout, à vrai dire. Il y en a qui espèrent avoir un nouveau président, parce qu'ils n'aiment pas celui qui est en place. Ils espèrent un sauveur, hein, vous voyez, un messie qui va changer tout sur la planète, qui permettra qu'il soit riche, en bonne santé, qu'il puisse partir en vacances plus longtemps. Passer de la semaine de 42 à 20 heures, ça serait top, hein, pour le même salaire. En fait, oui, on attend ce genre de messie aujourd'hui, mais pas le royaume de Dieu, comme c'était leur cas. Alors, qu'est-ce que les gens attendent aujourd'hui ? Ben, y en a qui aiment bien les discussions, ils aiment les arguments. Vous en avez autour de vous, hein, je sais, là, il y a des collègues scientifiques, moi j'en ai eu, mais je sais qu'il y en a dans la salle, et ils me disent « Ah, Franck, ça serait bien que tu viennes discuter avec nous ». Et eux, ils veulent des arguments théologiques. Eh bien, quand c'est comme ça, ben, faut fournir, les amis. Donc, il faut se préparer à ces choses. Il faut se préparer à ces discussions. Et toutes les prédications que je donne, j'utilise des illustrations, mais je fais aussi ce qu'on appelle de l'apologétique. Je vais essayer de trouver des arguments historiques. Et j'essaye de vous aider, je vous équipe de cette manière-là. Et donc, c'est pour ça qu'il faut les utiliser. En fait, vous allez faire comme l'apôtre Pierre nous l'encourage. Il dit « Soyez toujours prêts à répondre à quiconque vous demande de justifier l'espérance que vous avez. » D'accord ? Alors là, ça s'appelle de l'apologétique. D'accord ? C'est la défense de la foi. Mais vous avez remarqué la fin de la phrase ? Donc oui, c'est bien d'argumenter, mais la forme est hyper importante. Hyper importante. Faites-le avec douceur et respect. Le but, ce n'est pas un match de boxe, ce n'est pas d'envoyer le premier argument et de mettre KO l'adversaire. Si vous faites ça, vous n'avez rien compris. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le but, en fait. Le but, c'est de parler avec respect et douceur. D'accord ? Donc déjà, ce n'est pas écouter les arguments de son adversaire pour pouvoir tout de suite rétorquer, vous voyez ? Ça, c'est facile à faire. Je l'ai fait tellement de fois, les amis. Lorsque je me suis converti, moi, j'étais en match de boxe. Hein, j'étais tellement convaincu que Jésus était la solution à tous les problèmes des humains que dès que je rentrais dans une conversation, j'essayais de convaincre. Et alors, du coup, j'écoutais les gens, mais avec le seul but de leur montrer qu'ils étaient incohérents et que leurs arguments ne tenaient pas la route. Alors, vous savez quoi ? Je donnais des bons arguments. Théologiquement, ça tenait la route. Mais ça servait à rien. Pourquoi ? C'est parce que je l'ai donné avec arrogance. Et donc ça humiliait mon adversaire, ça humiliait la personne qui avait en face de moi, mais ça portait aucun fruit. Et j'avais oublié la fin de la phrase, là. Vous voyez ? Des fois, on mémorise le début du verset, ça nous arrange. On a oublié le respect et la douceur. Et c'est fondamental. Discuter, vous savez, je discute des fois avec mon épouse, des fois on a des discussions vives, hein, mon stagiaire a été témoin cette semaine. Ma femme, des fois, elle m'envoie du pâté dans les dents, elle m'envoie une bonne vérité qui est réelle, hein, je veux dire, mais la manière de l'envoyer est tellement forte que je n'écoute même pas ce qu'elle me dit. C'est pas bien. Mais j'espère qu'elle va apprendre une leçon, elle aussi, ce matin. Que je me corrige, c'est une chose. Hein, qu'on dise la vérité, c'est bien. Mais on n'envoie pas ces quatre vérités aux gens. On la donne, on la dit avec douceur, dans l'espérance que l'autre change. Mais vous voyez, douceur et respect. La forme, les amis. Mettez la forme, le ton. Le ton, ça compte énormément. Alors ça, c'est pour les gens qui veulent discuter. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on est dans une génération, alors ce n'est pas tout le monde non plus qui est comme ça, mais il y en a qui veulent voir. qui veulent toucher, qui veulent goûter à l'évangile avant de croire. Vous savez, dans les années 70, on avait à peu près ce schéma. C'était les méthodes d'évangélisation, donc on mettait vraiment l'accent sur le croire, ensuite l'appartenance et ensuite le vécu. Et aujourd'hui, bon ça c'est en missiologie qu'on dit ça, c'est qu'on a basculé en fait dans le cercle, vous avez vu. Aujourd'hui on pense et on parle plutôt d'appartenir, ensuite de vivre une expérience et à la fin j'adhère, vous voyez. Donc le processus est un petit peu inversé, mais les gens en ont marre des grands discours. Ça ne vient pas que de nous, hein. Alors oui, l'Église en général, je ne citerai personne ici, tient des promesses qu'elle ne fait pas. La politique, et on entend des beaux discoureurs un peu de partout, et les gens, ils en ont marre. Ils sont passés à autre chose. Ok, si tu dis, alors tu fais. Montre-moi d'abord ce que tu fais, et après je verrai si ça m'intéresse. Et je pense qu'on a aussi ce genre de catégorie dans nos églises, et il faut en tenir compte. Et avec eux, bah, il va falloir cheminer. D'accord ? Donc on n'est plus dans l'approche apologétique, là. Ils ne nous posent pas de questions. Là, il faut prendre du temps, tout simplement. Prendre la température, les écouter, faire des choses avec eux. Vous savez, dans notre village, on avait la possibilité de faire des études bibliques, de lancer dans des boîtes aux lettres, voilà, je suis pasteur, je fais des études bibliques à ceux qui veulent bien, groupe découverte, tout ça. Il n'y a pas beaucoup de public, en fait. Je ne sais pas si c'est votre cas. Appelez-moi tout de suite, hein, je vous forme pour ça. Mais comment on fait ? Comment vous faites ? Bon, lancer un débat pour une discussion. Alors oui, avec vos collègues de travail, à un moment donné, vous allez glisser dans la conversation. Peut-être, tiens, dimanche, j'étais à l'église. Ou, tiens, la semaine dernière, on a fait ça, où j'étais en week-end d'église. Ou, j'ai lu tel article. Vous voyez, vous allez essayer de glisser un moment sur votre foi, sur Jésus, sur Dieu, et puis eh ben, vous allez saisir l'opportunité qui va se présenter. Mais ce n'est pas simple, c'est pas simple. Et nous, on habite dans un petit village et on s'est dit, mais comment nous, on peut avoir un impact local ? On a décidé de monter un petit café. Alors attention, hein, ce n'est pas une méthode unique, mais on veut rentrer en relation avec ces gens. Et donc on les aime, on va les servir, vous voyez, on les sert, on leur fait des bons chocolats chauds, des bons cafés, des bons cappuccinos. Mais on joue, on passe du temps avec eux, on fait des jeux de société, on crée du lien social parce que c'est un manque dans notre ville. Vous voyez, donc c'est une action parmi des millions d'autres qu'on peut faire et c'est illimité. Mais c'est juste pour vous donner une idée de ce schéma. On est aujourd'hui, on s'adapte quelque part, et c'est ce qu'on essaye de faire. Eh bien, on va vivre des choses avec eux, et on espère, on prie en tout cas, pour que notre vie, nos réactions, nos paroles, nos attitudes les touchent, et qu'à un moment donné, ils fassent ce que Pierre dit. Vous avez lu 1 Pierre 3,15, mais c'est dans 1 Pierre 2,12, où il dit « Afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et qu'ils glorifient votre Père le jour où il viendra les visiter ». En fait, là, on manifeste des œuvres bonnes, vous voyez, on est dans une autre approche. Donc l'apôtre Paul, il avait un public quasiment gagné quelque part. Il pouvait parler de Jésus, il pouvait y aller franco, direct, parce que le public était préparé. C'est pas notre cas aujourd'hui. Donc, il faut y aller piano. Mais ça veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Il faut entreprendre des choses. Et là, je lisais sur un article, et dans cet article, il y a Joshua Chatrave. Alors voilà, ça c'est une des méthodes qui a fait ses preuves dans toute l'écriture. C'est un processus en fait, l'évangélisation. Et c'est pour ça, peut-être que c'est plus simple de cette manière-là que dire « Ah, comment je dois faire ?» Labourer, c'est enlever les a priori, enlever les gros cailloux, gratter la terre, pour aller travailler le cœur, vous voyez, pour créer la soif, le besoin. Ensuite, semer, bah, c'est trouver des opportunités. Récolter, ça, c'est rare. C'est si la personne est ouverte, bah, vous n'avez qu'à annoncer l'évangile. Ça nous arrivait récemment. On vient, on prêche l'évangile, la personne se tourne vers Jésus et on se dit « Waouh !» Mais c'est tout plein de gens qui ont travaillé avant nous. Et l'arrosage, bah, c'est plutôt la prière. Et là, ça se fait à chaque étape, donc ce n'est pas vraiment une étape. Donc vous voyez, ça, c'est le processus de l'évangélisation. Mais ce préparer à parler, c'est aussi se préparer à écouter. Voilà ce que dit cet homme, Joshua Chatra. Il dit, donc lui, il écrit un livre pour les chrétiens, pour les aider à évangéliser dans un monde où le scepticisme est roi, en fait. Les gens sont sceptiques aujourd'hui. Voilà ce qu'il dit. Vous avez sous les yeux. « Bien que vous entendiez souvent les mêmes objections, comme celle qu'il soulève la question du mal ou souligne la nature restrictive de la morale chrétienne. Hein ? Ouais, si Dieu est bon, pourquoi la souffrance ? Ça, c'est ce qu'il dit là. Ou alors, ah ouais, mais vous pouvez rien faire les chrétiens, même pas coucher avant le mariage, et vous voyez, tout ce genre de rhétorique sur l'éthique, etc. Regardez ce qu'il dit. « N'oubliez pas que chaque personne à qui vous parlez possède une histoire personnelle distincte. » Veillez à ne pas supposer que vous savez ce qui est au cœur de leur objection. Je vais y arriver. Bien écouter est la première étape d'une apologétique de l'amour. Mes amis, c'est la base. Avant de parler, et là j'ai mis se préparer à parler, eh bien pour se préparer à parler, il faut écouter. Je dirais que 80% de notre évangélisation, ce n'est pas de la parole, c'est de l'écoute. Et oui, l'évangélisation, c'est de l'écoute. Une écoute attentive. En fait, quand on écoute les gens avec attention, et si vous aimez discuter, regardez les gens qui sont autour de vous, à qui vous aimez discuter, vous, personnellement, à qui vous vous confiez ? Aux gens qui sont à l'écoute. Aux gens qui n'ouvre pas la bouche. Et ça, c'est mon point de faiblesse. Moi, j'ai tellement de choses à dire, moi, que j'oublie d'écouter, en fait. Et du coup, la base, les amis, c'est l'écoute. Une écoute attentive. Et moi, je dois me faire violence. En disant, tais-toi, écoute avant d'ouvrir ta bouche. Tu la tournes 7 fois, ta langue, dans ta bouche avant de l'ouvrir. Il faut que je me le répète régulièrement. Vous voyez, c'est ma tendance. Alors, peut-être que ce n'est pas la vôtre, mais en tout cas, l'écoute attentive. Et lorsque les gens se savent écouter, qu'ils se savent non juger, alors ils vont se livrer plus facilement. Donc vous voyez, ça c'est la première étape et c'est ce qu'on voit ici. Donc différents modes de communication, mais l'écoute, mes amis, est essentielle. Deuxième élément pour être une église comme Éphèse, eh bien c'est se préparer à souffrir. Aïe, aïe, aïe. Ça, on n'aime pas ça, les amis. Et pourtant, c'est la réalité. C'est la réalité. Regardez ce qui se passe ici. « Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules et décriaient devant la multitude la voix du Seigneur. » Donc, on prêche l'Évangile. Et puis, y a des gens qui ne croient pas. Les incrédules, c'est ça. C'est les gens qui ne veulent pas croire. On a beau leur présenter tous les bons arguments, ils s'endurcissent. Et là, c'est un public dur, en fait. Ici, ça s'est relativement bien terminé à Éphèse. Hein. Il a été lapidé à d'autres endroits. On l'a éjecté. Des fois, il a été exfiltré des synagogues. Ici, on n'en est pas jusque-là, mais quand même, on voit que ça se passe mal. Ça se passe mal. On a de la contradiction en face. Il y a vraiment une opposition frontale. Alors, tant que ça reste dans les paroles, ça va. Mais là, ça va un peu loin. Il décriait la voix du Seigneur. Donc ces gens s'endurcissaient. Donc, comme les Israélites, j'allais dire, comme Pharaon, hein, ils voient les miracles, ils sont devant une réalité et pourtant ils la nient, ils la renient. Et ils ne voulaient pas entendre parler de l'évangile de ce Jésus, du Messie. En fait, lorsqu'on arrive à ce point, les amis, c'est parce qu'on a abordé les questions qui fâchent, en général. Tant qu'on n'a pas abordé les questions qui fâchent, tout va bien. Par contre, dès qu'on aborde la question du péché, de la seigneurie de Christ, de la mort à soi, de l'obéissance à Christ et à sa parole, eh bien, ça remet en cause notre désir d'indépendance, notre égoïsme, notre indifférence. Et ça, ça dérange. Hein ? Vous savez, j'ai eu la joie d'amener plein de gens à l'Évangile, à Jésus, de les conduire à Jésus. Ça m'est arrivé plein de fois. Mais si je compte toutes les fois où j'ai annoncé l'Évangile et toutes les fois où j'ai eu un fruit, c'est minime en fait. J'ai démarré des dizaines de groupes découvertes de la Bible et je les ai rarement tous terminés. Si je suis honnête, j'en ai avorté beaucoup en route. Parce que dès qu'on arrive aux questions personnelles, dès qu'on arrive au choix à se positionner pour suivre Jésus ou pas, eh bien là, ça coince. Alors, il y en a qui ont été très sympas, qui m'ont dit, bah, écoute, c'était super, tes groupes découvertes, mais voilà, c'est... ciao. D'autres qui se sont arrêtés en route en disant, ah ben non, non, là, ça va trop loin, là, attends, donner ma vie à Jésus, tout donner, non. Il n'y a que les évangéliques, le dimanche matin, qui peuvent chanter ça dans leur église. Pas moi. Et il y en a d'autres qui m'ont carrément blacklisté en me disant « Ouais, mais c'est quoi ce truc quoi ?» Et donc du coup, si je comptabilise l'ensemble, franchement, j'en ai plus avorté des groupes découvertes que j'en ai terminé. Et ça, c'est la triste réalité, les amis. Et vous allez y être confrontés. Mais il y a no surprise ici. Hein. Jésus nous a avertis dès le départ. Son premier grand discours, vous savez où il l'a fait ? Tout premier grand discours. Matthieu 5. Les béatitudes. Ça veut dire quoi, béatitude ? C'est le bonheur. C'est que du bonheur, n'est-ce pas ? Heureux. Ça commence comme ça. Il y en a 9. Vous pouvez les reprendre à la maison. Matthieu chapitre 5. Je vous prends la dernière. C'est pour votre bonheur, les amis. Et regardez, on va parler de joie. Regardez bien le texte. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, aïe, qu'on vous persécutera, oui, et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal, aïe, 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 à cause de moi. Attention, c'est pas parce que tu pêches, hein. À cause de moi, ok, il y a une cause au-dessus, hein. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédé. Jésus nous demande de nous réjouir lorsque nos amis nous rejettent. Ça paraît pas très naturel tout ça, n'est-ce pas ? Est-ce que Jésus serait masochiste ? Non. Il nous dit de nous réjouir parce que nous sommes en communion avec lui. Hein ? Tout le début des béatitudes, c'est ça, ça commence là, d'être avec lui. Et donc d'être en relation avec lui. Et quelque part, quand il nous dit de nous réjouir alors que ça fait mal, c'est parce que ça nous fait toucher du doigt le fait, et ça nous fait mieux comprendre ses souffrances à lui en fait, mais les souffrances qu'il a souffert pour nous, à notre place. On touche à peine du doigt quelque part quand on souffre ce que lui a souffert pour nous. On participe quelque part à ses douleurs. Il nous joint, ou nous nous joignons plutôt à lui dans l'honneur de mourir à un monde qui se meurt et qui le rejette. Mais n'oubliez pas ce qu'il y a surligné en rouge ici. N'oubliez pas que nous récolterons peut-être rien ici-bas, mais que nous avons... Si nous avons travaillé durement pour lui, alors que nous avons salé, que nous avons parfumé autour de nous, alors nous recevrons une grande récompense dans les cieux. Donc vous voyez que le fruit de notre travail ne sera pas forcément visible. Et il y a des gens qui n'ont parfois travaillé toute leur vie pour un ministère et qui n'ont vu aucun fruit. Le fruit est arrivé beaucoup plus tard. Et ça, c'est parfois la réalité de ce que nous allons vivre. On passe des années à parler de l'Évangile à nos enfants. On laboure. On leur parle de Jésus à nos parents, à nos grands-parents, à nos beaux-parents, et ils restent indifférents. On parle à nos voisins, et ils sont réfractaires. On parle à nos collègues de travail, et ils se moquent de nous. Vous voyez ? Eh bien, il faut persévérer. Jésus nous dit, persévère, prie pour eux, laboure. Labour, aime-les, sème l'Évangile. Fais des actes de bienveillance envers eux. Persévère, ne te lasse pas. Parce que ta récompense sera grande. Si tu fais rien, mon ami, déjà d'une part, tu n'auras aucun fruit, et ça c'est normal. Mais quand tu vas arriver au ciel, tu n'en auras pas non plus. Oui. Donc là, il nous encourage à y aller quand même. On aura une récompense. Ça ne vous réjouit pas, ça, les amis ? D'avoir une récompense, là, je vois des têtes d'enterrement. Et oh, c'est la banane, là. Votre récompense sera grande. Ici, on n'est que des voyageurs. On est des ambassadeurs voyageurs, les amis. On ne pose pas nos valises ici-bas, on n'est pas à la maison, on n'est pas arrivé. On garde tout dans nos valises et on est en marche. On est des voyageurs, les amis. On ne s'installe pas sur cette terre. Si on est des voyageurs, c'est que notre cité, elle est plus haute, elle est plus loin. C'est le ciel, là où il y a la récompense qui nous attend. Ça vous motive pour parler de Jésus? En tout cas, moi, c'est ma carotte. J'ai pas que celle-là, mais c'en est une belle. Troisième élément pour être une église puissamment utilisée par Dieu, c'est qu'il faut se préparer à devenir des disciples. Des disciples qui font des disciples. Parce que c'est ça que nous a demandé Jésus. Regardez le verset 9. « Il se retira de prix les disciples à part et eut des entretiens chaque jour dans l'école de Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. » Waouh ! Là, c'est puissant, les amis. Hein, je ne sais pas si vous réalisez cette petite église-là, parce que en fait, ce qui se passe ici, on assiste aux prémices de l'implantation de l'église d'Éphèse. Il y a un champ d'évangélisation qui est un peu limité, c'est la synagogue. Il prêche l'évangile, il est rejeté, ok, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez que je lisais cette semaine la biographie de Luther, bon, c'est plus qu'une biographie d'ailleurs, c'est l'histoire de Martin Luther et son approche vis-à-vis de l'évangélisation. Vous savez qu'il a utilisé l'Église catholique, et il le disait ouvertement, il disait « Mon champ de mission, c'est l'Église, et donc je viens là pour prêcher l'Évangile. » Mais ils ne sont pas chrétiens, les gens qui sont là. Et donc, il savait que son troupeau n'était pas là. Et il aurait dû, à un moment donné, se séparer. Mais il a maintenu le baptême des enfants, parce que c'était le cas, ce qu'on appelle des églises de multitude. Et le problème, c'est qu'en maintenant ça, il a maintenu aussi l'idée qu'on rentrait dans l'Église et qu'on y restait grâce au baptême, oui, qu'on devenait chrétien. Il n'a pas changé cette chose-là. Donc il n'a pas pris les disciples et n'est pas sorti de l'Église. Et ça a créé de la confusion. D'autres l'ont vu, hein, qui ont été des disciples de Luther. Calvin, par exemple, lui, il s'est séparé de l'Église. Clairement, il a séparé les choses. Luther ne l'a pas fait et ça lui a porté préjudice. Ça a porté préjudice à l'Évangile. Alors certes, les écrits ont été diffusés, mais lui-même, dans sa vie, il a été très dur avec Calvin, hyper dur avec les gens qui, justement, s'étaient séparés de l'Église à un moment donné. Et bien on assiste ici à une séparation identique, mais elle est nécessaire à un moment donné. Parce qu'en voulant faire changer la structure de l'intérieur, ça ne marche pas. Et donc, ben il s'est dit, ok, on va créer autre chose. Et donc, il a pris les disciples avec lui, les disciples de Jésus là, hein. Il ne dit pas ce que c'est, mais c'est les disciples de Jésus, du Messie. Il les prend à part. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va leur donner des études bibliques. Il va les former, mais pas que des études bibliques. Alors, il va faire ça pendant 2 ans. Il va, et là on a un nom, l'école de Tyrannus. Chaque jour dans l'école de Tyrannus. Je ne sais pas dans quelle version vous avez, mais dans certaines versions, on trouve un petit rajout qui dit que cette école, il allait dans cette école de la 5e à la 10e heure. Hein, je ne sais pas si vous avez probablement cette version, c'est-à-dire entre 11h et 16h. Donc à la pause du midi, quelque part, parce que comme il faisait chaud, il s'arrêtait à 11h. Et donc Paul travaillait. Hein, à Corinthe et à Éphèse, Paul a maintenu son activité. Parce qu'il y avait une raison derrière. Jeune église, il ne veut donc peu de moyens, peu de chrétiens, donc il fallait qu'il ait son soutien. Donc il travaillait la journée, il fabriquait des tentes, il travaillait le cuir. Et donc il travaillait le matin à 11h, il faisait la pause et là il enseignait. 5 heures d'affilée, calculé, s'il fait ça 6 jours sur 7, le 7e étant le jour du repos, le Shabbat, et donc ça comptabilise à peu près 3000 heures. 3000 heures, donc pendant 3000 heures, 2 ans, hein, ça fait 3000 heures de formation. Vous avez déjà suivi des formations? Ça fait beaucoup, hein? 3000 heures de formation. Alors, on ne sait pas s'il a consacré cette formation que à des études bibliques, et je pense pas en fait. Moi j'aurais aimé être là, j'aurais aimé avoir le programme de l'apôtre Paul. Comment tu fais pour former des leaders? Comment tu fais pour nommer des diacres ou des anciens? Quelle est la place des enfants dans l'église? Comment accompagner les gens en difficulté? Vous voyez, toutes ces questions qu'un pasteur, que des anciens, que des leaders se posent, j'aurais aimé être là, mais on n'a rien en fait. C'est très furtif. En tout cas, ce qu'on peut être sûr, c'est que Paul n'était pas seul et que ce n'est pas Paul qui est allé tout seul évangéliser toute l'Asie. Parce que vous avez remarqué le résultat de ça? Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Ce n'est pas Paul tout seul. Ça, c'est grâce à l'implication de tous les disciples qu'il a formés. C'est parce qu'il les a formés. Alors, les 3000 heures, ce n'était pas forcément pour un disciple, hein, on est d'accord, c'est qu'il en a formé régulièrement. Il faisait que ça, une machine de guerre, l'apôtre Paul. Il formait des gens et il les envoyait. Il formait, il envoyait. Il y avait beaucoup de gens qui venaient à Éphèse pour le commerce. Ils restaient quelques jours, quelques semaines, et donc ils entendaient Paul enseigner. Ils venaient. Quand ils étaient chrétiens, ils emmenaient l'évangile avec eux. Et donc c'est comme ça que toute l'Asie a été évangélisée. C'est grâce au ministère de formation de l'apôtre Paul, à l'enseignement de l'apôtre Paul régulier, à la prédication textuelle suivie. Là, je vais un peu loin. Mais mes amis, c'est un petit peu ce que je souhaiterais ici pour nous, pour notre Église. C'est que notre ministère d'enseignement ne soit pas simplement stérile. C'est pas simplement j'écoute des études bibliques, je consomme du message, mais que je prends ce message, que je le comprends, donc je rediscute dans les groupes de maison. Hein, et c'est là où il y a les discussions, c'est pas le monologue, c'est la discussion dans les groupes de maison. Et comment j'applique cette parole? Comment on s'encourage les uns les autres à être des témoins? Comment on joue notre rôle dans la société? Comment je peux me comporter avec un collègue belliqueux, avec un patron injuste? Les groupes de maison sont là pour ça. Ce n'est pas moi qui réponds à ces questions dans une prédication. Je peux vous répondre d'une manière générale, ça vous donnera des principes, mais vous avez besoin de dialoguer, de discuter, de confronter vos idées. Et c'est pour ça qu'on met en place ces groupes de maison. Pour ça qu'on a des groupes de croissance, pour nous encourager, nous stimuler. Quand il y a du péché dans notre vie, on a de la difficulté à l'exposer aux autres et il ne faudrait même pas le faire dans un grand groupe. Mais dans un petit groupe, ça a toute sa place. C'est pour ça qu'on vous encourage à faire des groupes de croissance. Groupes de croissance parce que vous allez grandir. Si tu restes avec ton péché, que tu tournes en rond, parce qu'à un moment donné, c'est ce qui se passe, tu pèches, tu te repens, tu ne mens pas, puis au bout d'un moment, tu n'oses même plus regarder Dieu, parce que tu es dans l'esclavage. Et bien quand on est 2 ou 3, et qu'on se dit « Ah, je dois te rendre des comptes demain à mon copain ou ma copine », alors là, ça change, ça nous stimule. Mais l'autre, il est aussi faible en face. Donc il va aussi vous partager ses problèmes. Et donc, on est là pour s'aider, s'entraider et continuer. Je vous cite ici le rôle que nous avons, nous, en tant que pasteurs. Mon rôle, ce n'est pas de faire le job à votre place, mais c'est de vous former pour que vous fassiez le boulot, en fait. C'est ce que Paul faisait. C'est ainsi que le Christ lui-même a donné aux apôtres, aux prophètes, aux évangélistes, aux pasteurs et aux docteurs de quoi équiper son peuple pour les œuvres de service, afin que le corps du Christ soit édifié. Alors qu'il grandisse, hein, le mot édifié, c'est qu'il grandisse spirituellement, mais aussi en nombre. Parce que si vous êtes bien nourri, si vous êtes des brebis bien grasses, vous allez vous reproduire, vous allez avoir un beau pelage. Vous voyez ? On va pouvoir utiliser votre laine, on va pouvoir bénéficier. Vous ne serez pas stérile en fait, vous allez faire des petites brebis, des petits agneaux. Et c'est ça, un troupeau en bonne santé va se reproduire. Ce n'est pas l'apôtre Paul, alors lui va se reproduire d'une certaine manière, mais dans les leaders. Voyez. Mais notre rôle, c'est d'équiper le peuple. Il l'a dit encore ailleurs, dans 2 Timothée 2:2, vous connaissez ce verset par cœur. « Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Est-ce que vous savez compter jusqu'à 4? Parce que c'est le nombre de générations qu'on voit ici. Paul, il a enseigné, d'autres ont entendu, hein, de nombreux, donc en présence de nombreux témoins. Toi, tu l'entends, donc tu l'entends de qui? De Paul, donc ça fait 2 générations. Qu'est-ce que tu fais? Tu le confies à des hommes fidèles, 3e génération, qui soient capables de l'enseigner à d'autres, on est dans la 4e génération. Voilà le résultat. Voilà le succès, en fait. Il se mesure à ça. Est-ce qu'on a réussi à transmettre suffisamment bien l'évangile pour ne pas rendre les gens dépendants de nous, mais qu'ils soient dépendants de Christ et qu'ils soient capables, eux aussi, à leur tour, d'en enseigner d'autres. Alors ici, je pense que ça concerne essentiellement les anciens ici. Mais le principe demeure, c'est de former des gens qui vont en former d'autres. D'accord ? Donc on va annoncer l'évangile à d'autres disciples. La formation de disciples, c'est en fait passer du temps avec d'autres chrétiens. Parler, poser des questions, encourager, corriger. C'est montrer comment le Christ et l'Évangile répondent aux problèmes de la vie, aux douleurs et aux déceptions. C'est pour ça qu'on a ces groupes. Ils sont là pour ça, les amis. Savoir comment appliquer la Bible dans toutes les situations de la vie. Et c'est à partir de ce moment où tous les croyants de l'Église vont jouer leur rôle que l'Église va grandir et qu'elle pourra avoir un message puissant qui va largement dépasser ses murs. 4e et dernier point, pour avoir un témoignage puissant ou pour être une église puissante, c'est se préparer à confronter. Et là, on arrive dans quelque chose de fou. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui avaient touché son corps. Alors les maladies les quittaient, les esprits mauvais sortaient. C'est l'un des versets les plus étranges du livre des Actes. Alors je ne crois pas qu'il enseigne que vous devriez demander des mouchoirs à votre pasteur. Ça peut être utile, mais si vous êtes enrhumé, pas plus. En fait, plusieurs éléments permettent de comprendre correctement ce passage. Vous avez vu ici, c'est les miracles se font par qui ? Par la main de Paul. Paul, il avait quoi comme fonction, comme titre ? Il était apôtre de Jésus-Christ. Le fait de faire des miracles est un signe de son apostolat. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12, allez voir, ce sont les signes distinctifs d'un apôtre. Avoir une patience à toute épreuve et faire des signes, des prodiges et des miracles. Ça prouve que tu es un apôtre. Il n'y en a plus aujourd'hui des apôtres, dans le sens plénier du terme. Il y a des apôtres en tant qu'envoyés, mais les apôtres comme les 12 qui ont reçu une autorité telle qu'il l'a lui aussi reçue. Et en plus, au-delà du miracle, ces miracles étaient là aussi pour authentifier la parole de Dieu, le message qu'ils annonçaient. Je vous ai mis ici Hébreux chapitre 2, ce salut annoncé à l'origine par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, les apôtres. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles variés et par des communications du Saint-Esprit selon sa volonté. Vous voyez, les miracles sont là pour confirmer la parole. Et donc c'est assez unique dans l'histoire. C'est pour ça qu'on ne va pas le revoir ailleurs. On le voit dans le livre des Actes parce que ce sont les actes des apôtres. Ok ? Et ici, il y a des miracles, ce n'est pas pour rien. Éphèse est probablement la ville la plus occulte du Nouveau Testament. À Éphèse, il y avait un culte à Artémis. C'était une déesse profondément vénérée et crainte par les Éphésiens. Mais il y avait aussi ce qu'on appelle les Ephesia Grammata. C'était 6 formules magiques qu'on pouvait acheter à des sorciers. Ça coûtait une fortune. Et elles étaient insérées dans des petites fioles et portées comme des amulettes autour du cou ou on les mettait dans nos poches. Et c'était notre porte-bonheur quelque part. Ça coûtait beaucoup d'argent et en plus à cela, il fallait rajouter des offrandes. faire des offrandes régulières pour maintenir la bénédiction, vous voyez. Donc si vous désiriez être guéri de quelque chose, eh bien il suffisait d'acheter une petite fiole avec ces Ephesia Grammata à l'intérieur. C'était des formules magiques et donc vous étiez protégé si vous aviez peur d'un démon, vous étiez protégé d'un démon. Et si vous désiriez être guéri, c'était soi-disant une manière de pouvoir être guéri. Et en fait, la suite du chapitre montre que lorsque les Éphésiens se sont convertis en masse, ils ont brûlé toutes ces petites Ephesia Grammata. Et vous savez pour combien ils en ont brûlé ? 50 000 pièces d'argent. J'ai calculé, en gros, c'est entre 2 et 3 millions de francs. Ça pique, là. Hein ? Ton investissement, là, ta retraite, ton troisième pilier... Ils ont tout brûlé parce qu'ils comptaient là-dessus. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est très touchant et en même temps qui est ironique de la part de Dieu. Pourquoi je dis que c'est ironique ? Parce que, en fait, Paul, il fabrique des tentes. Et en Turquie, il fait chaud en général. Et les ouvriers portent des sortes de bracelets ou des turbans qui font un petit peu comme les joueurs de tennis, vous voyez, des trucs en éponge pour pomper la transpiration, la sueur. Et donc, les morceaux de tissu qui sont là, ce sont des bouts de tissu sales, crasseux, hein, on peut dire, il y a de la transpiration. Enfin, honnêtement, je n'aurais pas trop envie de me sécher le visage avec ça. Et l'ironie de la situation, c'est que Dieu, il va utiliser ces morceaux de tissu moches et dégoûtants pour apporter la guérison. C'est dingue. En fait, Paul n'a absolument rien vendu dans cette situation. On ne le voit pas imposer les mains, on ne le voit même pas prier pour ces gens, et il ne profite de rien. Ce sont les gens qui, en le voyant opérer des miracles, vont récupérer ces bouts de tissu qui ont touché son corps, et il va se passer des miracles hallucinants. Pourquoi je disais que c'est ironique ? Parce que, pour espérer être guéri, les Éphésiens devaient acheter des amulettes coûteuses, de belles amulettes. Vous voyez, c'était façonné par des orfèvres, taillé dans de la pierre, poli, c'était magnifique, c'était beau, c'était propre. Vous voyez, et ça coûtait une fortune. Et là, Dieu va faire exactement l'inverse. Il va donner gratuitement la guérison au travers de quelque chose de sale et de répugnant. L'opposé, en fait. Il les prend sur leur terrain. Et c'est là que je trouve que c'est touchant. En fait, ils sont sensibles au côté magique des choses, et Dieu tient compte de cette sensibilité. Et c'est pour ça que c'est touchant, en fait. C'est que Dieu, il s'adapte à nous. Il vient nous chercher là où nous sommes. Il vient nous offrir quelque chose de gratuit et nous le donne d'une manière opposée à ce que les autres avaient fait. Eux, ils étaient obligés de payer et ils n'étaient jamais sûrs. Ils devaient toujours rajouter de l'argent pour garder cette bénédiction. Là, Dieu le donne définitivement. C'est gratuit. Waouh ! L'évangile peut être manifesté même au travers de ce genre de miracle fou. Mais attention, les miracles, les amis, ne sauvent personne. C'est Jésus qui sauve. Là, ils étaient peut-être guéris, il y avait des démons qui s'en allaient, mais c'est quand l'évangile est cru et appliqué qu'il va transformer le cœur et que la vie des croyants va changer. Je souligne, et je l'ai dit rapidement, que Paul n'a pas profité de la situation et de la crédulité de ces pauvres gens pour faire du business et leur extorquer de l'argent. Il avait la possibilité de trouver son soutien pour les 10 prochaines années. Il aurait découpé sa tunique en 50 bouts de tissu et il les aurait vendus. Hein ? Vous avez déjà entendu des chrétiens dire « Mais on n'a qu'à jouer au loto ?» Jésus ne fait pas ça. Hein ? Paul ne fait pas ça ici. Il ne profite pas de la situation. Dieu, il fait ce qu'il veut et comme il veut. Et là, il a choisi ce tissu-là. Je ne suis même pas sûr que Paul était au courant. Il a dû peut-être l'apprendre comme ça, au cours d'une réunion. « Oh, Paul, tu sais qu'il y en a qui vendent tes... » Ah bon ? Il a dû sourire, en fait. Mais ce n'est pas ça qui sauve, les amis. n'est pas ça qui sauve. Il y a une grande différence entre Paul et l'attitude des prophètes d'aujourd'hui, des faux apôtres en fait, qui vendent des bénédictions. Vous pouvez acheter une prière aujourd'hui, vous pouvez même acheter des bouts de tissu. Il y a des télé-évangélistes qui se mouchent dans un mouchoir et qui vendent leur mouchoir. Il y en a qui vendent l'eau du Jourdain, de la terre d'Israël, de l'eau bénite, des crucifix. Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez aujourd'hui. C'est du business. Paul et les serviteurs de Dieu authentiques, mes amis, n'entrent jamais là-dedans. Jamais, jamais de commerce. Pourquoi ? Parce que l'évangile est gratuit. Il nous a été donné gratuitement. Alors nous, on l'offre gratuitement aux autres. Et il voulait que ça soit très clair, et c'est pour ça qu'il travaillait de ses mains, l'apôtre Paul. Il voulait non seulement leur montrer un modèle d'un homme de Dieu qui travaille, qui gagne son argent de manière honnête, mais en même temps qui ne profitait pas d'eux. Donc vous voyez, il y avait double portée ici. Allez, je conclue. Peut-être que ce matin, tu es comme ces Éphésiens. Alors moi, je t'encourage à te confier au libérateur. Tu es peut-être comme ces Éphésiens qui avaient peur de l'avenir, qui avaient peur de tomber malade, qui avaient peur des esprits ou des démons, qui avaient peur de ce qui t'attend après cette vie, peur de n'avoir pas assez de bonnes œuvres pour avoir une place au ciel. C'est peut-être ta crainte aujourd'hui. Si c'est le cas, alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Sache que Jésus est victorieux sur toutes ces choses, sur toutes tes peurs. Il peut te libérer de tout ça. Jésus est mort sur une croix pour enlever la culpabilité de ceux qui se confieraient à lui, qui lui déposeraient ses peurs, sa honte, sa culpabilité. Écoute bien ce que dit Paul aux chrétiens de Colosse, une des églises implantées par les Éphésiens. Regarde ce qu'il dit. Alors, je l'ai pas mis, mais je vais te le lire. Colossiens chapitre 2, verset 14. « Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. En mourant sur la croix, Jésus a pris la liste de l'ensemble de tes péchés, de ton indifférence à son égard, de ton manque de reconnaissance, de tes actes égoïstes, de tes mensonges, de tes cachotteries, de tous tes manquements en fait. Et qu'est-ce qu'il a fait de ça ? Il les a cloués à la croix, et il les a supprimés, effacés. Mais Jésus, il n'a pas fait que ça. À la croix, regarde ce qu'il a fait. Si tu as peur des démons, écoute bien ce qu'il dit. Il dit au verset 15, c'est la suite, « Il a dépouillé les dominations et les autorités. » Et là, on peut rajouter le mot « spirituel ». Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, par la croix. Et le mot ici, c'est dépouiller. Il les a dépouillés. C'est-à-dire qu'il les a désarmés. Il a retiré leurs munitions. Donc, ils sont inoffensifs. Si tu as peur des démons aujourd'hui, peut-être que c'est ton cas, peut-être que tu as trempé dans l'occultisme et tu sais ce que ça fait, eh bien, confie-toi en Jésus. Place-toi au pied de sa croix. Et lui, il est au-dessus de tout ça. Il règne en maître et seigneur sur tout l'univers, sur tous les démons, sur le diable. Il règne en roi. Et c'est le seul qui est capable de faire ça. Et tu sais quoi ? Il t'offre tout cela gratos. Gratuitement. C'est offert. Tu n'as rien à payer pour ça. Tu n'as pas d'offrande à faire. Tu peux laisser passer le petit panier. Ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Ça, c'est des actes volontaires que les chrétiens de cette église font en disant Dieu. Et ils sont conscients que c'est Dieu qui leur donne à manger, qui leur donne un travail, qui leur donne le luxe dans lequel ils vivent. Alors, ils choisissent de redonner parce que c'est Dieu qui leur a donné. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le salut, c'est pas du troc avec Dieu. Ça, c'est une offrande volontaire. C'est pas une offrande pour que Dieu me bénisse. Non, non, parce que là, il te l'offre gratuitement. Et ça, il l'a fait à la croix. Et là, je m'adresse à vous qui êtes assis derrière vos sièges. Vivez comme des personnes libérées. Bien souvent, je vois trop, honnêtement, trop de chrétiens qui vivent dans la culpabilité. Je discute avec eux. Ah, je prie pas assez. Ah, je fais pas assez de ci. Ah, je fais pas assez de ça. Comme si Dieu, il leur demandait de cocher des croix. Mais t'es pas dans une religion. Dieu, il attend quoi de toi? D'abord, que tu l'aimes, lui, en priorité. La première des choses que tu dois penser quand tu te lèves, c'est connecte-toi à ton Dieu. Ta connexion. Tu fais comme tu veux. Tu peux passer ton temps à prier ou te connecter dans la Bible. Ok? C'est un choix. Mais connecte-toi à la source. C'est ça qu'il veut. Et à partir du moment où tu es recentré sur Christ, à partir du moment où tu as cette relation avec lui, que tu es connecté à ton Seigneur, alors là, tu peux passer à l'action. Mais pas avant. Parce que si tu te mets à l'action dès le matin, ah, Franck, il nous a dit qu'il fallait qu'on évangélise. Oui, mais ça va se sentir à 3 kilomètres que tu veux évangéliser et que tu le fais avec tes œuvres, avec tes bonnes œuvres, un petit peu comme les témoins de Jéhovah qui viennent frapper à vos portes, les amis. Ils le font pas parce qu'ils vous aiment, parce qu'ils ont la pression derrière. Voyez la différence? Par contre, quand tu t'es connecté à ton Seigneur, tu sais que ce matin, c'est gratuit, qui t'a offert encore ce salut, que tu es dans la liberté. Et c'est parce que je suis libre que je peux me mettre à l'action. Et c'est la troisième application. Sois un chrétien missionnel. Si tu es connecté à ton Dieu, alors vis ton identité de missionnaire, quelque part. Vis ce que tu es. Et qu'est-ce que tu es en Christ? Vous vous souvenez de ces schémas que je vous rabâche à longueur de temps? Ce sont les schémas d'une église missionnelle, les amis. On se connecte ensemble, c'est toutes les images qui nous recentrent. On est la vigne, on est le temple, on est la colonne et l'appui de la vérité. Vous voyez, on est ce troupeau, cette vigne, on se rassemble autour de Christ, on vient se ressourcer, on se rend fort, on se forme, on s'équipe. Et qu'est-ce que fait Franck? Maintenant que vous êtes équipé, pan, il vous met un coup de pied. Tirez-vous pendant la semaine, allez dans le monde et maintenant vous allez jouer votre rôle d'ambassadeur, de parfum de Christ, de témoin de Jésus, de réconciliateur. Vous voyez toutes ces métaphores? C'est ce que vous êtes et c'est ce que je vous encourage à être pendant cette semaine, les amis. Mais connectez-vous à votre Seigneur avant, s'il vous plaît. Sanctifiez Christ dans votre cœur et soyez ensuite des témoins. Mais voyez, il y a une étape à franchir. Vivez comme des libérés.